D'accord.
C'est un peu mon histoire.
Tu crois ?
Oui.
Vas-y, je t'écoute.
Les chercheurs de l'ARC analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle
sans fausse modestie,
sans tabou,
ou presque
sans a priori, si c'est possible,
de problématiques qui traversent notre société,
avec des gens du terrain,
on va réfléchir ensemble,
et puis si on doute, c'est tant mieux.
Du taf au fumoir. Bienvenue dans cette hors-série un peu spéciale du taf au fumoir. Cet épisode a en effet été enregistré en présence d'un public, ce qui a amené une dynamique différente. Vous trouverez ici un débat peut-être plus animé que d'habitude, grâce à la présence du public, des invités, aux thèmes un peu plus polémiques. Étant donné que la soirée a été relativement longue, cette émission sera séparée en deux parties. Celle-ci avec les interventions des invités, que vous écoutez peut-être sur Radio Panique, ou via nos plateformes de streaming habituelles. Il y aura une deuxième partie qui sera disponible en ligne avec les questions et les réactions du public du soir même. Voilà, pour ceux et celles qui souhaitent approfondir la thématique. D'ici là, je vous laisse aux mains d'Anne qui animait la soirée comme d'habitude. Bonne écoute.
Bonsoir, donc moi c'est Anne, je suis responsable de communication à l'ARC et pour le coup animatrice de cette émission enregistrée en public. Nous allons aujourd'hui débattre autour du numéro 3 de permanence critique intitulé « État, association et stratégie politique » et plus spécifiquement autour de l'étude rédigée par Nicolas Marion, à l'époque chercheur à l'ARC, et qui a écrit une étude intitulée « État et associations », dont je le laisserai vous parler mieux que moi, après une brève présentation par chacun des invités, en commençant par toi, Nico.
Bah, du coup, Nicolas Marion, philosophe de formation, ancien chercheur à l'ARC, certes, et maintenant coordinateur éducation permanente. Et j'ai, en plus d'avoir rédigé l'étude dans le troisième numéro c'était plus que mon étude, c'était toute une réflexion globale sur les rapports entre ces rapports par rapport à la question de l'idéologie dans le milieu associatif. Voilà.
Donc moi je suis Pierre Smetsch, je suis cofondateur du collectif 21, qui est donc un collectif qui s'est créé à l'occasion du centenaire de la loi sur la liberté de s'associer en Belgique. Et je suis psychanalyste, je travaille dans un service d'association que j'ai également cofondé.
John Pitsais, je suis aussi philosophe de formation, fille politique, et puis là maintenant député au Parlement bruxellois pour le groupe écolo.
Bonsoir, moi c'est Julien Winkel, et je suis journaliste. Je travaille pour plusieurs publications, mais notamment pour un magazine qui s'appelle Alter Echo, donc qui est la raison de ma présence aujourd'hui, qui est un mensuel qui traite des questions sociales. Le hasard fait qu'on a publié il y a de ça un mois le numéro 500 qui était dédié à ce qu'on a appelé les intermittents du pouvoir, notamment les ASBL. Et donc j'ai notamment fait un article où j'analysais un petit peu les relations historiques complexe entrelacé de l'associatif et des pouvoirs publics. Mais globalement aussi à Alter Echo, c'est une dépendance d'une SBL qui existe depuis 25 ans. Et donc au-delà de cette question de manière précise, on observe régulièrement au travers de nos papiers les relations imbriquées entre l'associatif et les pouvoirs publics. Donc c'est quelque chose qu'on observe tous les jours en fait. Voilà.
Merci beaucoup. Nico, c'est toi qui as la parole en premier pour nous expliquer un peu le déroulement de ta réflexion autour de la question.
Alors, j'ai pas trop fait de plan pour essayer d'expliquer, et j'ai relu mon étude cet après-midi et je me suis dit que ce serait très long si je devais tout expliquer. Alors, je vais essayer plutôt de partir de, d'abord d'une anecdote qui est que bon, le numéro 3 s'appelle État, Association et Stratégie Politique, qui est en fait le résultat d'un travail d'euphémisation du propos qu'on voulait avoir initialement quand on a pensé le numéro, qu'on voulait appeler initialement État et Révolution. Qui était un espèce de clin d'œil à Lénine et qui était une façon de essayer de réfléchir la question de la dimension révolutionnaire du travail associatif. Est-ce qu'elle existe ou non? Et est-ce qu'elle est possible ou non? Est-ce qu'il existe un travail associatif qui soit révolutionnaire? Et c'était un peu comme ça qu'on avait imaginé le numéro avec Fabio à l'époque. Et j'explique ça pour expliquer un peu l'origine de la réflexion que j'essaie de proposer, c'est-à-dire l'objet initial était d'essayer de comprendre sous quelles conditions structurelles, ce qui était une intuition que j'avais, les associations ne pouvaient pas être révolutionnaires et voire n'en avaient pas la capacité. Et ça, c'était la première intuition. C'était un peu dans une démarche d'autocritique un peu masochiste comme ça, c'était d'essayer de montrer pourquoi notre secteur a des prétentions de lutte sociale très engagées, mais n'est pas dans les conditions pour pouvoir les mener à bout, pour pouvoir être conséquent avec ses prétentions idéologiques. Donc ça, c'était le premier plan. Et le deuxième plan qui nous a permis de faire l'euphémisme dont je parle, c'était qu'on avait l'intuition, moi et Fabio à l'époque, qu'il y avait un phénomène assez présent dans le milieu associatif, qu'en tout cas nous on fréquente, mais je pense de façon générale, qui était que il est très difficile de savoir quel concept d'État se donnent les associations qui pourtant travaillent tous les jours avec quelque chose comme un État. Un État qui prend la forme d'un service public subsidiant pour la majorité des associations, mais qui, bon, une certaine indétermination du concept d'État nous semblait présente dans le milieu associatif. Et donc le résultat enfin l'étude que je propose est le résultat du croisement un peu de ces deux intuitions-là, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un lien intrinsèque fondamental entre le fait que les associations sont ou incapables, ou en tout cas peu enclines à se donner un concept d'État fort, et le fait que leurs prétentions révolutionnaires n'ont pas ou peu de chances d'aboutir ou d'être conséquentes. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est là où je vais aller beaucoup plus vite que ce que je ne le dis dans mon étude, c'est que j'ai essayé d'analyser un peu les raisons critiques et épistémologiques qui expliqueraient pourquoi les associations ne savent pas penser ou se donner un concept d'État. Et les raisons que j'essaye d'invoquer à partir de différents concepts, c'est que en réalité, elles ne peuvent pas penser l'État parce qu'elles sont le lieu où une certaine pensée de l'État se fait et prend corps et agit dans la société. C'est ce que j'essaye d'utiliser, de pointer en essayant de dire que les associations sont pas juste des organismes parapublics ou des organismes privés qui luttent pour une société meilleure, etc. Mais avec le concept d'Althusser, sont des appareils idéologiques d'État. C'est des institutions particulières qui participent à la façon dont le pouvoir d'État s'exerce dans la société. Et à la façon dont les attendus de la pensée d'État, que moi je qualifie comme étant le résultat d'une certaine pensée dominante, on va dire, s'exerce de façon hégémonique dans la société. Et elle s'exerce d'une façon hégémonique dans la société à travers le travail des associations qui recueillent en fait entre guillemets, le travail des contradictions sociales et les rendent, et par ce recueil-là, les rendent hégémoniques socialement parlant. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai essayé de défendre dans mon étude. Mais après, j'imagine que si on continue à discuter, ce sera peut-être un peu moins théorique, un peu moins abstrait et qu'on pourra opposer les choses un peu différemment. Voilà.
Est-ce que tu peux quand même expliciter déjà un peu ce que tu viens de dire avec des exemples concrets de ce qu'on vit dans nos ASBL?
Bah, je peux donner un des points que j'ai utilisé d'ailleurs dans l'étude, qui pour moi est un phénomène assez intéressant, qui est absolument omniprésent dans, je sais pas si ici je crois tout le monde a au moins un tout petit lien avec l'associatif, et à mon avis souvent des très gros liens avec l'associatif, c'est la question de la justification des actions menées dans les associations pour obtenir des financements. Donc c'est un des grands points, des grands sujets de débat de l'associatif. C'est-à-dire, un certain nombre de choses sont faites par les associations, et souvent avec des prétentions de critique sociale forte et d'opposition assez forte, notamment à certaines politiques d'État. Mais elles sont faites dans des conditions où les associations qui portent ces combats sont structurellement financées par l'État qu'elles critiquent. Bon, ça, c'est une situation relativement connue dans le milieu associatif. Mais j'essaie de me dire, mais quelles sont les implications réelles de ce type de dispositif? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exercice assez permanent qui consiste à correspondre au diagnostic attendu de manière à obtenir les financements. Donc il y a tout un moment d'auto-évaluation exigé par le pouvoir public qui permet de justifier que l'argent qui a été donné a bel et bien permis de répondre aux priorités qui étaient définies par le pouvoir public, le pouvoir subsidiant. Ce qui fait que toutes les associations travaillent avec l'idée qu'ils travaillent vraiment pour s'opposer à l'État, à certaines politiques d'État, puisque bon, certaines choses auxquelles elles s'opposent sont les résultats directs des politiques prises par l'État qui financent par ailleurs. Mais elles ne peuvent le faire qu'à condition de les formuler et de les adresser dans un vocabulaire, dans un type de diagnostic avec des exigences particulières qui sont, qu'on le veuille ou non, contraignent les associations à assumer que la façon dont l'État propose d'analyser le champ social est la bonne façon de le faire. C'est-à-dire, même si l'évaluation de leurs activités va à l'encontre de la façon dont les politiques d'État s'exercent, elles sont néanmoins obligées de les formuler de telle manière à ce qu'elles valident le diagnostic fourni par l'État. Et donc, si on accepte ce présupposé-là, ça, entre guillemets, ça donne un point d'entrée ou d'explication à ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est qu'on est structurellement amené à ne pas pouvoir être conséquent avec les luttes qu'on mène. Voilà. Parce que si on était conséquent avec les luttes qu'on mène, on serait sans doute amené à un moment à renverser l'État. Mais ça, c'est une position révolutionnaire qui est impossible dans le milieu associatif. Voilà, donc ça, c'est un exemple très concret. C'est-à-dire, si vous parlez à des travailleurs associatifs, vous savez très bien qu'ils sont tous très, très critiques par rapport au pouvoir subsidiant. Mais au moment où cette critique peut s'exercer, c'est-à-dire au moment où ça pourrait être lisible pour le pouvoir public, eh bien, le constat le plus commun que j'ai entendu dans toute mon expérience associative, c'est ben, on raconte n'importe quoi, on ment. Donc, c'est-à-dire on adapte les choses de manière à pouvoir recevoir les sous. Donc, oui, on ment, on édulcore, on adapte. Alors après, il y a plein de choses à dire sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et quelle liberté on se garantit en faisant cet exercice de mensonge permanent. Mais donc, en gros, il y a quand même une réalité assez intéressante à observer dans ce fait-là de l'association, qui est que on est structurellement amené à adapter ou à, et franchement, je pense que le mot mensonge n'est pas un gros mot, vraiment. Parce que ce moment où se transcodage des activités en pensée d'État, c'est-à-dire le moment de l'auto-évaluation du rapport d'activité, donc le moment où il y a un point de connexion entre les activités qui sont menées et le pouvoir subsidiant, ben, est structurellement inscrit sous le signe du mensonge, de la feinte, de l'inconséquence politique. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'encastrement idéologique des associations, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où l'idéologie ne peut qui se déploie dans les associations, atteint sa limite propre. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple.
Ok. Est-ce qu'on ne peut pas dire, pour poser une question un peu peut-être bateau, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'événement d'aujourd'hui contredit un peu ce que tu dis ?
Ça dépend. Ça, c'est... Non, je ne pense pas, justement, parce que ce que je dis n'implique pas que les activités qui sont menées dans les associations n'exerce pas une certaine forme de... ne s'exerce pas à mettre en tension les contradictions sociales, politiques, etc. Au contraire, elles le font et elles sont amenées à le faire. Mais j'ai beaucoup de doutes, alors que je travaille ici, hein, sur le fait que je pourrais expliciter véritablement dans l'évaluation que je vais produire de l'activité de l'ARC, si c'est moi qui ai amené à la produire, la véritable portée que je voudrais donner à ce type d'initiative. Là, je vais devoir la fondre dans un diagnostic qui est pris d'une, bon, d'une toute autre forme.
Je vais, ouais. Je vais rappeler qu'on verra plus tard sur comment gérer ça en tant qu'associatif.
Déjà, et puis à mon avis, ça donne, et ça c'est à mon sens le plus intéressant, ça donne à réfléchir à si les choses sont comme ça, quelles fonctions, du coup, ont les associations par rapport à la forme État, en règle générale. Parce que si on prend l'histoire de l'associatif, ça j'imagine que Pierre aura des choses à dire, mais si on prend les 100 ans d'associatif en Belgique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme résultat de ces 100 ans d'exercice de critique sociale? Est-ce qu'on peut, par exemple, vraiment dire que l'associatif a contribué à une amélioration une amélioration significative de l'état du système social, ou est-ce qu'elle a essentiellement contribué à permettre sa reproduction? Bon, c'est une question, hein. j'ai pas de réponse là-dessus, mais je dis ça permet d'ouvrir des voies de réflexion sur, ben, si c'est ça la situation, alors quelle est la fonction des prétentions révolutionnaires dans l'associatif, ou quelle est la fonction de l'encouragement à porter des luttes dans les associations en tant que pouvoir d'État? Ça, c'est une autre question intéressante, auquel John pourra peut-être répondre. En tant que... quand on est du côté du pouvoir public, quelle fonction on donne à l'associatif et comment on comprend son rôle social, comment on comprend ce qu'on lui attribue comme fonction critique et quelle fonction on attribue à cette fonction critique. Voilà, ça, c'est des questions qui, moi, m'intéressent. Et c'est des pistes de réflexion là-dessus que j'essaie de donner dans l'étude. Voilà.
Avant de passer la parole à Julien, je vais demander à John de se positionner par rapport à tout ce qui a été dit maintenant, donc en tant que député bruxellois, donc en tant que représentant politique.
Alors je vais essayer de le faire, mais ça va être compliqué parce que ce qui est dit est quand même suffisamment important pour qu'on ait aussi envie d'en discuter comme citoyen. Donc... ce serait inévitablement un peu des deux. Moi, je crois que ce que tu proposes, c'est bien sûr important. Ce sont des propositions importantes à discuter. Et ce sont inévitablement des propositions perturbantes à entendre quand tu es représentant politique. Moi, je voulais proposer 5 perches, ou en tout cas 5... J'allais pas dire contre-argument, c'est pas ça, mais 5 propositions argumentatives qui compléteront, peut-être objecteront, peut-être au contraire iront dans le sens de ce que tu dis. La première, pour rappel, c'est que je ne pense pas qu'il y a quelque chose comme les associations en Belgique. Il y a des associations qui font partie de sociétés civiles, qui sont structurées de manière assez différente selon les thématiques, les sujets qui sont traités. Qui sont ancrés dans des sociologies différentes, qui sont ancrés dans des piliers différents, qui sont ancrés dans des idéologies différentes, qui sont ancrés dans des modèles organisationnels différents. Et donc, ce n'est pas contradictoire avec ce que tu dis, mais il faut, en guise de préliminaire, rappeler qu'il n'y a pas quelque chose comme les associations ou le peuple des associations. Ça n'existe pas. Il suffit de lire la liste des associations reconnues par l'éducation permanente pour comprendre qu'il y a en fait 13 mondes différents. La deuxième chose, si on se penche alors plus sur des associations qui ont une vocation de critique sociale, parce qu'ok, alors commençons à discuter des associations dont une part de l'objet est de questionner, en tout cas l'objet affirmé, est de questionner l'ordre des institutions. Deux choses, alors avec lesquelles on ne pourra peut-être pas être d'accord, mais je crois que alors je préfère jeter ça là, comme disent les jeunes. La première, c'est que pour les associations que je connais, la plupart du temps, il n'y a pas de conception de l'État. L'État n'est pas un sujet. On parlera de justice, on parlera de citoyenneté, on parlera de services publics, on parlera de mouvements sociaux, on parlera de racisme, on parlera de réforme, on parlera de révolution, on parlera d'impérialisme, on parlera de migrants, on parlera de plein de choses. Mais l'État, ces quatre lettres, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Ça n'intéresse pas les associations de s'interroger sur ce qu'est un État, sur ce que c'est l'exercice de la souveraineté sur un territoire et sur une population à l'aide d'institutions formalisées. Ce n'est pas un sujet pour cause, parce que la plupart de ces associations n'aiment pas cet État. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a souvent des associations qui disent critiquer les idéologies anti-État, le néolibéralisme qui vise à la destruction de l'État, le libéralisme qui est la limitation de l'État. Mais en fait, la plupart des critiques, la plupart des analyses, Dieu sait, j'en ai quand même lu en 10-15 ans, c'est toujours une critique de l'État. C'est toujours une mise en cause de l'État. C'est toujours la démonstration que l'État n'est en fait que le jouet de forces hégémoniques. C'est toujours l'idée que l'État est une coquille creuse. C'est toujours l'idée que l'État est un instrument. Mais l'État, est-ce qu'il a une existence intrinsèque ? Non. Est-ce qu'il a une logique intrinsèque ? Non. Est-ce qu'il vaut la peine d'être étudié en tant que tel ? Non. L'État est suspect. Je pense vraiment ne pas avoir lu d'analyse disant pour une revalorisation, une reconsidération, une redéfinition de l'État. Parce que ces associations se conçoivent comme des instruments de critique sociale. Et donc l'objet de la critique sociale, c'est de montrer que derrière la façade, il y a toujours quelque chose d'autre. Et donc l'État, c'est une façade. La façade de quoi ? De rien. L'État, c'est rien. Quatrième perche, il y a à la fois une ressemblance, une dissemblance avec la conception de l'État des institutions avec lesquelles ces associations frayent. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y a ceux qui financent les sous des associations et ceux qui subsidient. Ceux qui financent, en termes de citoyens, c'est grosso modo, si je veux dire quelque chose d'un peu obscène, c'est grosso modo, statistiquement, des électeurs belges qui votent pour le Vlaams Belang ou pour la NVA. Il ne faut jamais oublier que l'éducation permanente, c'est le budget de la communauté française. Le budget de la communauté française, il n'est pas issu de recettes fiscales propres. Il est issu d'une loi spéciale de financement. Cette loi spéciale de financement, elle est issue des sous-fédéraux. Les sous-fédéraux, c'est grosso modo les néerlandophones qui payent. Et c'est énorme, ça. C'est-à-dire qu'on a une totale étanchéité entre ceux qui donnent les sous, en fait, ceux qui financent. Pas ceux qui subsidient, j'y reviens tout de suite, mais ceux qui donnent les sous et ceux qui profitent. Et donc c'est facile en fait. Moi j'en ai lu des analyses qui disent que la NVA c'est la destruction des services publics et de la critique sociale. Très bien les amis, mais le jour où vous voulez vous débarrasser de la Flandre et de la NVA, il n'y a plus d'éducation permanente. Et ceux qui subsidient, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est quoi le discours hégémonique ? Ben quelqu'un qui tombe de Mars, il va dire ben... C'est un discours de centre-gauche. Si vous êtes un gars centriste qui vient de Slovénie, vous voyez c'est quoi en fait les critères de l'éducation permanente, solidarité, cohésion sociale, critique sociale, émancipation collective. Hein. Un truc qui vous plaît pas trop, qui plaît pas trop à des gens qui veulent faire la révolution, je comprends, mais des trucs réformistes. Hein. Franchement, si vous êtes Corentin de Sales et que vous postulez pour au nom du centre Jean Gaulle, vous dites « mais je suis chez les fous ici, je suis vraiment chez les tarés ». Et si tout à coup il entend qu'à l'Arc, là pour l'instant, on fait une conférence qui dit que le discours hégémonique, c'est le discours néolibéral, mais vous le tuez, il a un AVC tout de suite. Parce que les critères de l'éducation permanente, c'est objectivement du critère SOGDEM, quoi. C'est objectivement ça. Vaut mieux dire que ce qu'il faut, c'est financer les services publics et lutter contre le racisme. Vous pouvez faire vos 25 analyses de 8000 signes en commençant par « faut refinancer les services publics » et en terminant par « faut lutter contre le racisme ». Ça va bien marcher. Hein. Donc oui, il y a sans doute une forme d'hégémonie, mais alors une hégémonie un peu contre tout contre. C'est-à-dire, c'est je me souviens d'une membre d'une exécutive qui disait ben, « pour aider à tuer une idée, il faut l'embrasser avec des fleurs ». Mais là, il y a plein de fleurs. Oui, mais c'est le problème du jamais. Mais c'est bien avec des fleurs qu'on embrasse, pas avec autre chose. Donc ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, C'est un constat, et c'est peut-être triste, c'est que je crois que l'État s'en fout. Je crois franchement qu'il n'y a personne, c'est pas contradictoire avec ce que tu dis, qu'il n'y a vraiment personne dans les couloirs de l'éducation permanente, dans les couloirs des ministères, dans les couloirs des cabinets, dans les couloirs du Parlement, qui se dit « Merde, l'ARC fait un podcast sur les conditions de possibilité de l'élaboration d'un discours révolutionnaire sur les institutions. » Il n'y a pas une personne qui veut vous empêcher de tenir ce podcast, pas une, hein. Vraiment pas une. Et même, ils vont trouver ça fun. Et même, il y a un député écolo qui va venir afin de passer une bonne soirée. Donc, il ne faut vraiment pas croire, en fait, qu'il y a... Alors, ça n'est de nouveau pas incompatible avec ce que tu dis. Tu ne sais pas incompatible avec une forme d'hégémonie. Mais il ne faut pas croire qu'il y a la moindre attention de qui que ce soit de se dire « Tu mais là, il y a quelque chose de dangereux qui commence, hein, les gars ?» Non.
C'était du taf au fumoir.
si tu me permets une micro-réaction sur ce que tu viens de dire en dernier, c'est pas contradictoire avec ce que je dis, voire c'est dans la logique même de ce qui est décrit. Parce que c'est à la lettre. C'est un tic de langage que j'ai beaucoup. Mais c'est à la lettre ça qui fait la possibilité hégémonique de la chose. En revanche, je pense que tu as raison de dire que tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui marche dans les couloirs et s'en préoccupe. Néanmoins, le jour où je remets le plan quinquennal et le rapport général d'exécution, et je dis l'ARC a pour fonction de renverser l'État de manière à aplatir le néolibéralisme et à mettre une société communiste, si je dis ça, là par contre, il y a des gens qui vont dire ouais, quand même, je ne suis pas sûr.
Oui. Voilà. Mais Corentin de Salles dira la même chose. Il va dire si je dis l'objectif du Jean Gaulle est de faire triompher le libéralisme classique partout dans la société, eh bien, il y a pas mal de gens, et même plus en fait, qui vont dire quand même, je ne sais pas. Hein.
Et d'où le fait que ce n'est pas l'idéologie qui est importante, c'est la situation particulière des associations dans l'encastrement particulier de la forme État. Tu vois, c'est ça le point clé.
Bon. Et alors la dernière chose, qui est de nouveau, encore une fois, pas contradictoire avec ce que tu dis, c'est que je crois qu'on est dans une situation où les services publics sont forts, ils sont partout, le politique est très présent, même s'il est dilué, mais l'État est faible. En fait, on est dans une situation où l'État est relativement faible. Il n'y a pas de sorte de lieux, enfin, comparer juste la visite de la moindre mairie en France et la visite de la moindre maison communale, même la plus belle, à Bruxelles. Il y a peut-être une conception hégémonique de l'État, mais l'État est peu hégémonique, en fait. Et si c'est une hégémonie, c'est donc une hégémonie d'un État faible. De nouveau, pas absent. Ce n'est pas qu'il ne subsidie pas, ce n'est pas qu'il ne finance pas, ce n'est pas qu'il n'y a pas de service public, ce n'est pas qu'il n'y a pas de phénomène de distribution, mais l'État comme appareil d'État, il est relativement peu présent en Belgique. Il est relativement peu présent et en même temps, et d'autant plus que les partis et la société civile y sont très présents. Et là, c'est peut-être une forme quand même d'objection. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle que les corps intermédiaires et une part de la société civile, le rôle direct que les corps intermédiaires et une part de la société civile jouent, en fait, dans l'action publique. Ce rôle est très important. Ce n'est peut-être pas le rôle que tu souhaiterais voir jouer, mais ce n'est pas juste un rôle d'association instrumentalisée, ce n'est pas juste un rôle de jouet ou de marionnette. Ce sont des gens qui ont du pouvoir, il y a donc des barons de l'associatif, des barons de l'action sociale, des barons, souvent des barons, moins des baronnes, des barons du syndicalisme, des barons des mouvements mutualistes, et cela ne rigole pas, c'est de la vraie petite aristocratie politique. Tu ne fais pas, il y a plein d'ordonnances et de décrets, tu ne les fais pas si tu ne fais pas le tour des popotes. Hein. C'est du vrai pouvoir, c'est pas juste de l'influence. Je crois, alors c'est à la fois positif, optimiste et moins optimiste, qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle réel qu'une certaine société civile joue dans l'action publique en Belgique. Voilà. Je termine sur ce point, j'ai déjà été trop long, mais je voulais partager ces cinq considérations, cinq ou six considérations.
Julien, donc toi tu es journaliste, et je voulais terminer par toi parce que je voulais que tu entendes les deux mondes, les deux points de vue, en tant qu'observateur au quotidien de ces deux points de vue et voir ce que toi, d'abord, tu en penses, comment tu peux synthétiser ça, s'il y a déjà une synthèse possible de ce qui a été dit ou pas.
je ne pense pas qu'il y ait une synthèse possible parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, alors enfin déjà moi ici, je suis pas un politique, je suis pas un chercheur, je suis journaliste, donc je vais quand même remettre aussi le point d'où je parle. Je suis pas un spécialiste, donc voilà, j'ai pas vocation à produire une pensée philosophique sur les relations entre l'État et les ASBL. Par contre, c'est vrai que voilà, j'écris pour un magazine qui traite de ces questions, et donc c'est vrai que on observe certaines choses. Déjà, une chose, je pense que c'est une question qui s'est toujours posée, pour faire un truc un peu historique. Je pense qu'en Belgique, déjà rappeler que les partis politiques eux-mêmes, en fait, sont issus d'associations. Enfin, ça peut être con à dire, mais c'est la vérité. En général, c'est des gens qui se sont associés et qui ont voulu porter une voix. Donc, les partis politiques eux-mêmes sont le fruit de gens qui se sont mis ensemble et parfois sont nés d'associations. Je veux dire, prenons Écolo, c'est le meilleur exemple. C'est les Amis de la Terre, je pense, hein, c'est ça. Hein. Donc, c'est des gens qui, à un moment donné, avaient une vision politique, mais enfin, qui sont nés d'une association. Donc, faut aussi, je pense que ça permet quand même de mettre des choses en perspective aussi. Mais je pense que c'est un truc qui est vu comme le monde. Moi, quand je parle à des gens qui sont dans l'associatif depuis 35 ans, tous, en général, immanquablement, me disent le premier colloque auquel j'ai été, c'était un colloque sur la relation entre l'État et les ASBL. Déjà dans les années 70. Donc je pense que c'est une tension qui a toujours existé et je pense qu'il est, de mon point de vue, je pense, inextricable. Enfin, ce questionnement, je pense qu'on peut revenir en 2070, il y aura encore des questions là-dessus. Parce que c'est consubstantiel, je pense, à la manière dont l'État belge aussi est constitué. Effectivement, qui est un État finalement relativement faible et qui, à un moment donné, historiquement, a décidé de confier certaines missions ou d'encourager le fait associatif. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce qui ressort de ce que j'entends. Et donc, voilà, je pense que c'est une question qu'on se posera toujours. C'est vrai qu'il y a souvent la question des financements qui reviennent, moi, je trouve. Parce qu'on a beau dire, c'est le nerf de la guerre. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose... Enfin, je me souviens, dans le papier que j'ai fait il y a un mois, j'ai parlé à plusieurs élus, notamment un ministre qui m'a dit quelque chose. Il m'a dit, si on veut être indépendant, on veille à ne pas se mettre en situation de dépendance. Et je trouvais cette phrase quand même assez... Enfin, c'est très froid et très, peut-être très critiquable d'un point de vue politique, parce qu'on peut aussi dire que... Et je pense que l'État belge le fait. Je pense que l'État a aussi vocation à financer des contre-pouvoirs. Je pense que c'est même ça en démocratie. Enfin, la démocratie, c'est pas que des élections, c'est aussi une société civile. Je pense que dans un État sain, je pense que l'État a vocation à financer des voix qui sont des voix opposées. Et mine de rien, en Belgique, ça se fait. C'est pas toujours évident. Mais donc, c'est vrai que là, il y a quand même un paradoxe malgré tout. Et je ne sais pas si on en sortira un jour. Les ASBL perçoivent de l'argent des pouvoirs subsidiaires. Donc, de facto, elles se mettent en état de dépendance par rapport à ces pouvoirs subsidiaires. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait... à titre personnel, j'ai du mal à voir comment sortir de ce paradoxe. Donc peut-être que si on veut vraiment être indépendant, il faut trouver d'autres manières de fonctionner et de se financer pour être totalement indépendant. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est... c'est compliqué, quoi.
Mais on verra plus tard que, Nico, tu proposes plutôt que d'en sortir, d'en être conscient, déjà. Mais peut-être d'abord, on va laisser la parole au public, si éventuellement... Ah, vas-y. Oui, vas-y. Pierre, donc.
Les associations n'existent pas. Je trouve que ça va pas du tout de dire ça. Pourquoi ça va pas? Parce que je trouve que c'est... confondre le fait qu'il n'existerait pas un peuple associatif. Hein. Mais de nouveau, si je reprends le droit, les associations existent à partir du moment où une organisation a des statuts d'ASBL. Donc les associations existent. Elles existent. Juridiquement, elles existent. Bon. Et l'autre point avec lequel je voudrais venir, c'est l'histoire que l'État s'en fout. Si ce soir... vous aviez mis dans votre annonce « L'ARC organise une réaction et demain il y aura des actions, d'accord ?» et des sabotages, eh bien, je ne suis pas certain que ce soir, on soit si à l'aise d'organiser une réunion. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'une association comme le Comité Invisible en France, mais eux, quand ils organisent un rassemblement, c'est pas aussi calme que ce soir. Hein. Donc, ça veut dire que le milieu associatif, oui, on lui fout la paix, tant qu'il ne pousse pas trop le bouchon. S'il pousse le bouchon jusque-là ce soir, Ça va, jusqu'à ce soir, il n'y a personne qui a décidé de faire du sabotage.
Donc, en tout cas, on ne le dira pas.
Voilà, peut-être que... Oui, mais ça, c'est aussi une question politique de le dire ou de ne pas le dire. Hein, bon, voilà.
Je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas de tissu ou de milieu associatif, hein, sinon je ne serais pas là. Et je viens... Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des associations, c'est qu'il y a des types d'objets sociaux, il y a des manières de s'organiser, il y a des thématiques qui font tout simplement, allez, pour le dire très simplement, qu'il y a des styles différents. Voilà. Des styles et des idéologies différentes, et que donc si on veut parler de rapport à l'État, ça fait bien entendu des rapports à l'État différents. C'est vraiment une remarque préliminaire, toute bête, que n'importe... Enfin, je veux dire, rappeler qu'il y a des piliers différents et que des associations un peu issues du pilier catho, eh ben, elles vont voir les choses de manière un peu différente que des associations issues du pilier... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très simple, mais pour le reste, on est d'accord, il y a une société civile, il y a un tissu associatif, etc. Je n'ai pas dit que l'État s'en fout des associations. J'ai dit... D'ailleurs, j'ai terminé par dire que dans les rapports entre État et société civile, il y avait des rapports de pouvoir tels que il était absolument important pour le pouvoir politique de mettre en place des lieux, des SAS, des lieux de dialogue, des lieux de négociation, des lieux de pouvoir où s'échangent à la fois des discours, des influences, des intérêts, des positions. Et donc c'est la raison pour laquelle je parle de baronnies issues de la société civile, de positions de pouvoir, et nous les connaissons tous et toutes. Et donc il y a bien entendu des syndicats, il y a bien entendu des associations qui pèsent, etc. Ce que je voulais dire, c'est que il y a des associations qui, en plus de ça, ou outre ça, ont une ambition, et je crois que c'est l'ambition de l'ARC, qui est une ambition de développer une critique sociale, qui n'ont donc pas seulement pour ambition de défendre des intérêts ou des positions, mais de proposer un regard sur la société et un regard qui veut proposer autre chose qu'un regard hégémonique ou qui veut contester un regard hégémonique. Et je crois que c'est une des ambitions de l'ARC.
J'imagine qu'on va donner la parole, mais j'ai juste un point parce que ça me paraît très important de le dire maintenant. C'est pour ça que je me permets. Voilà, pour le coup, dans l'étude, mais ça reprend sur la discussion ici, moi, toute ma réflexion amène à dire deux choses finales, qui est la conclusion du texte, mais qui pour moi est peut-être la partie la plus importante du texte, qui est de dire d'une part, moi je suis pas certain que le point de dire il faut développer une contre-hégémonie, ou etc., etc., au sens des associations, je pense qu'il faut juste savoir quel rôle on a. Donc la première conclusion que je dis, c'est connais-toi toi-même comme non-révolutionnaire, c'est-à-dire assume ton rôle d'association. Tu sais très bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une association et quelle fonction une association a par rapport à l'État. Notamment celle d'être absolument prévisible et d'augmenter la lisibilité du champ social. Ça, c'est une de ses grandes fonctions. Mais la deuxième chose que je dis, et ça, à mon avis, c'est plus un point de vue de travailleur, de militant, qui n'est pas la même chose que le point de vue d'une association, mais qui est le point de vue de ceux qui travaillent dans les associations et qui en plus y travaillent à partir d'une perspective de critique sociale forte, c'est-à-dire tous ceux qui sont plus radicaux, on va dire. C'est-à-dire, c'est cette position d'ambivalence et de lisibilité et de prévisibilité et d'anticipation sociale que jouent les associations auprès de l'État, qui leur donne peut-être une force et un levier particulier, qui est de pervertir le processus ou de le détourner de sa fonction sans que l'État le mesure. Ça, je pense que c'est très important de le dire. C'est la deuxième conclusion que j'avance. C'est agis dans ton association de telle manière à ce que l'État ne soit jamais conscient de la façon dont tu travailles à le renverser. Voilà, c'est ça, pour le dire de façon, si je veux le dire de façon provocante. Mais en gros, il y a un très grand enjeu, je crois, pour les gens qui militent dans les associations et qui militent effectivement au nom d'une certaine posture de critique sociale, à le faire de telle manière à ce que l'État pense pouvoir lire le champ social à travers l'association et par là se trompe. Voilà. Il y a un grand enjeu à tromper l'État dans les associations. Et je crois que c'est une fonction très importante, qui paraît toute bête, mais qui est, à mon avis, importante à rappeler. Parce que c'est un des effets pernicieux de l'encadrement de l'action associative par l'État, c'est de tendre à faire oublier cette réalité. Parce qu'une des choses qu'on entend le plus souvent aussi, je trouve, parmi les travailleurs et les travailleuses associatives, c'est... Oui, je sais très bien que j'adapte mon langage pour correspondre aux catégories d'État, mais par ailleurs, sur le terrain, je fais autre chose. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est le, c'est peut-être le stéréotype le plus commun du travail associatif, c'est de dire, je sais très bien que je dis ça pour obtenir l'argent, mais par ailleurs, quand je suis dans le vrai travail, je fais autre chose. Ce qui est une réalité factuelle. Les gens font autre chose que ce qu'ils disent. Mais je pense que c'est tout à fait différent de le dire et par ailleurs vivre et actualiser cette influence qu'a l'État sur le travail associatif que de le thématiser comme une stratégie de perversion active d'un certain nombre de processus institutionnalisants que l'État a par rapport à l'associatif. Donc c'est, à mon sens, il y a deux choses à tirer de ça. Reconnaître l'état de choses, reconnaître l'hégémonie, reconnaître bon, la fonction de l'associatif dans cette hégémonie et la reconnaissant, travailler à la pervertir d'une certaine façon. Voilà, ça c'est à mon sens.
C'était Du taf au fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle. Retrouvez les questions et les réactions du public dans la deuxième partie de ce podcast qui sera bientôt disponible sur notre site, sur le site de Radio Panique et sur nos plateformes de streaming habituelles. À la présentation, Anne Leventhal, à la réalisation et au montage, Raphaël De Slover, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.